1, 2, 3.
Il y a de la mousse qui est enlevée.
Oh. 3, 2, 1, c'est parti.
5 guillemets au pluriel.
FPP.
Sur FPP 106.3 FM.
Comme tous les quatrièmes mardis du mois, vous êtes à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 ou rfpp.net partout dans le monde. 106.3, c'est évidemment modulation de fréquence en FM et uniquement à Paris et proche banlieue. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Farid Boudjelal. Bonjour Farid.
Bonjour.
Et Martine Lagardate. Bonjour Martine.
Bonjour.
Alors Farid, tu es un auteur de BD. Je vais même te faire un aveu, c'est que tu es, alors que je suis absolument réfractaire à un autre auteur, pas de BD, mais de poésie, qui s'appelle Victor Hugo, tu es la seule personne à avoir réussi à me faire tirer une larme sur un poème de, enfin, avec un poème de Victor Hugo. Mais avant de parler de Farid Boudjelal et puis de tous ces héros, de Petit Polio, de la famille Slimani, il y a Tom qui va nous faire un petit point sur le procès de Vincennes, puisqu'en ce moment c'est le procès de Vincennes, et... petit point qui deviendra un gros point tout à l'heure pour l'émission au fond près du radiateur. Et...
voilà, donc le procès de Vincennes, donc des inculpés de Vincennes qui sont donc accusés d'avoir mis feu au centre de rétention administratif de Vincennes en juin 2008. Le procès a débuté eh bien, hier au TGI de Paris. Il y a 10 personnes qui sont inculpées pour cet incendie, certains pour juste pour incendie volontaire avec engin enflammable, etc. Et d'autres pour incendie volontaire et pour violence sur agent. Il y a 5 policiers qui sont partis de civil dans cette affaire qui sont présents. Dans cette affaire, toute l'instruction est basée sur des images vidéo du centre de rétention, des caméras de surveillance, et sur un montage qui a été produit par la police qui dure 15 minutes, alors que les bandes du moment de l'incendie durent à peu près 35 heures. La défense des inculpés de Vincennes n'a jamais eu accès à l'intégralité des vidéos, mais seulement à une toute petite partie. Donc ça, c'est un petit détail, mais qui a quand même son sens pour introduire. Donc ça a commencé hier, et ça a commencé eh bien par des faits assez inhabituels, à savoir que l'un des inculpés de Vincennes, donc qui devait passer en procès, avait été raflé à Gare du Nord le matin même, donc était au commissariat en garde à vue et ne pouvait pas citer. Ce qui faisait que le procès ne pouvait pour l'instant pas se tenir. Donc ça a commencé comme ça, sous la pression du juge et du parquet, l'inculpé qui avait été arrêté et a été libéré et est arrivé au tribunal pour pouvoir comparaître. Donc ça a été le premier incident de séance, mais du coup il y avait eu une suspension de séance pour attendre que l'inculpé sorte du commissariat et rejoigne le tribunal. Et pendant cette suspension de séance, on a appris par la femme d'un des autres inculpés qu'elle reconnaissait la juge comme étant la juge qui citait dans l'affaire, qui dirigeait cette affaire, comme étant une juge l'ayant déjà condamné son mari à de la prison dans une autre affaire. Donc ce qui faisait un vice de procédure plus ou moins au niveau légal, ce qui a fait que son avocate a demandé tout de suite à que la juge, le terme c'est que la juge se déporte, ce qui veut dire que la juge se dessaisisse du dossier. Donc ça a créé aussi une nouvelle suspension de séance jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, la juge a décidé de ne pas se dessaisir de l'affaire. Les avocats ont demandé la récusation de la juge. Donc ils ont demandé, en gros, c'est une décision qui est prise par le président de la Cour d'appel de Paris, de savoir si la juge est compétente ou pas compétente, vu qu'elle n'est pas forcément, il n'y a pas les garanties d'équitabilité, vu qu'elle elle a déjà jugé la même personne, et d'ailleurs dans des histoires assez graves. Et si le procès continue, on le saura demain. Il faut savoir aussi qu'il y a toujours une personne qui comparaît dans ce procès en détention. Tous les autres prévenus comparaissent libres. Et donc il y a encore une personne qui est en prison, et son statut de détenu devrait évoluer demain, ou doit être discuté aussi sa remise en liberté.
Voilà, donc il y aura plus de nouvelles.
Il y aura besoin de monde demain à 13h30 au tribunal. C'est important qu'il y ait du monde.
Besoin de monde demain à 13h30 au tribunal. Beaucoup plus de nouvelles tout à l'heure, hein, puisque...
De 19h.
À partir de 19h, puisque l'émission au fond près du radiateur et Zéro Hebdo, vous vous associez pour faire une émission spéciale d'une heure et demie sur le procès. De 2h30, pardon, oui. erreur de ma part, sur le procès. On pourra réécouter l'émission Singulier au pluriel qui a été faite le mois dernier, qui concernait aussi la préparation de ce procès. Hein, donc ça, on peut la trouver. Eh bien, il suffit d'aller sur le site rfpp.net. Vous allez à la page de Singulier au pluriel et là, vous tomberez sur l'audioblog. Je ne vais pas donner l'adresse comme ça parce qu'elle est un petit peu compliquée. C'est sur Arte Radio, audioblog. Enfin bon, bref, moi-même, je ne l'ai pas en tête. Donc on avait fait ça et on avait fait il y a deux semaines aussi une émission RUSF qui était consacrée à ce procès. Donc très important et des nouvelles demain.
Voilà, il y aura toujours de l'info sur FPP par rapport à ce procès.
Oui, on en parlera aussi demain, donc à la même heure pour RUSF. Voilà, merci beaucoup Tom. Et avant de revenir avec Farid, hein, je propose qu'on fasse un petit peu de musique pour se mettre dans une bonne ambiance.
حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم أشكيله نار حبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك محتار أعمل لك إيه في دلالك ليها خف غرامي وغرامي هلكني لاشكي وابكي واحكي بلكي يا غزالي يلين قلبك حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم أشكيله نار حبك واكتب جوابات اشكيلك واتدلل ساكتة وصبرة وراضية بأحوالك من الأول وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني وافديك بحياتي وروحي واهلي ومالي ولا تسأل روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك محتار اعمل لك ايه في دلالك وفي صدك اشكي وابكي واحكي بلكي يا غزالي يلين قلبك يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وجد بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك
Toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et nous venons d'écouter Asmahan, hein, qui était une très grande chanteuse égyptienne en fait d'origine libanaise, hein, d'origine druze, et sur un tango composé par son cousin très célèbre aussi, Farid El Atrache. Et j'avais envie de mettre cette musique, hein, en début d'émission, parce que ça me... Alors peut-être que je me trompe, hein, mais quand j'écoute, quand je lis des bandes dessinées, très souvent, j'ai des ambiances musicales qui sont dans la tête, et ça faisait partie des ambiances musicales que j'avais en lisant certaines pages que tu as pu faire. Est-ce que je me trompe ou...
C'est ce qu'écoute certainement la famille Simani, les parents au moins.
Oui, les parents ou les grands-parents, puisque
les
c'est
les grands-parents aussi, mais les enfants, ils doivent écouter ça, mais entre autres.
Oui, donc ça a été enregistré en 1944.
Hein, ah ben là, ils auraient du mal, mais ils peuvent très bien écouter. C'est-à-dire, les jeunes, souvent, ils peuvent écouter à la fois du rock, de la chanson et puis de la musique arabe aussi.
Et ça, c'était la musique des parents. Hein, c'est de la musique, sûr, à la fois, c'est de la musique arabe, c'est du tango.
Mes parents écoutaient, moi j'écoutais aussi Farid El Atrache, des gens comme ça, bien sûr. Ouais. Mohamed Adelweb, tous les grands musiciens du monde arabe qu'on redécouvre aujourd'hui, qui en France, moi quand j'étais gamin, pour les gens, c'était la musique arabe, c'était Yafet Mal Amouker, être. Trempe d'aucune à la soupière.
Oui, oui.
Ah oui, ça a beaucoup évolué depuis. Je suis étonné de voir l'évolution des gens, même qui écoutent du ride dans des boîtes de nuit, et puis qui du ride sont passés au Mahalouf, au Shahabi, à des musiques comme ça, qui étaient. Et à l'époque, je me souviens, c'était. En France, ça n'était pas du tout apprécié pour les gens, moi-même, des amis proches. Pour eux, c'était du bruit. Hein.
D'ailleurs. C'était du bruit et il est souvent question de musique d'ailleurs dans tes albums. Hein. Je pense à par exemple dans Les Folles Années de l'Intégration. Mmh. Bon, ça commence sur Rockabilly.
Oui, bien sûr.
Hein, Rockabilly et
ben, Les Folles Années de l'Intégration, quand on a réédité cet album, c'était un album qui avait été fait avec dessiné par Larbi Meshkour, et c'est un album qui avait été réalisé au moment même de la première marche pour l'égalité. Il y a eu une espèce, ce qu'on a appelé, je crois, abusivement, les beurs.
La marche des beurs.
Ou... La marche des beurs, alors que ce n'était pas la marche des beurs, c'était vraiment la marche pour l'égalité. Donc avec, justement, puisqu'on est dans une radio qui est à la fois singulier et pluriel, c'était vraiment singulier et pluriel à ce moment-là. Et puis on a un peu culturalisé ce mouvement en faisant un mouvement beurre, ce qui a été une erreur, je pense. Et donc, parce que c'était beaucoup plus porteur que ça. C'était, il y avait vraiment un grand mélange de... Mais absolument toutes les communautés.
D'ailleurs, un des slogans à l'époque, c'était « La France, c'est comme une mobilette. Pour avancer, il y a besoin de mélange. »
Ça, c'est après. Ça, c'était, oui, c'était au moment de convergence aussi, mm-hmm. qui a été la suite. Oui, donc, moi, j'avais participé un peu à toute cette mouvance. Et quand on a réédité cet album, je dis, ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir un objet vraiment de l'époque, qui témoigne parfaitement de la sensibilité de l'époque. Et à l'époque, c'est vrai que moi, j'avais inventé des tas de groupes de rock, par exemple. Il y a des groupes qui se sont créés, je veux dire, sans savoir que c'était manière, c'est moi qui pratiquement inventé les noms, quoi.
Oui.
C'était, hein, y a des termes aussi, comme bourgeois, tout ça, que j'ai utilisé par la suite, qui sont arrivés, là, je ne sais plus, des groupes de rock, que Jean Bomber, des trucs comme ça, qui étaient à l'époque, comme on parlait beaucoup de ça, je déconnais, puis j'avais une espèce de matériau à l'époque qui était complètement inédit. D'ailleurs, par la suite, c'est devenu beaucoup plus commun, quoi. Et l'intérêt de cet album, malgré toutes ses maladresses, c'est d'être un véritable objet qui est venu de cette époque, qui parle bien, témoigne parfaitement de la sensibilité de cette époque. Et oui, j'invite tout le monde à se le procurer d'urgence.
Oui, non, mais c'est...
À ceux qui ne l'ont pas déjà, les malheureux.
Oui, hein, donc il est,
comme
édité,
je l'ai plein.
Il est édité chez Tartamudo.
Chez Tartamudo, absolument.
Chez Tartamudo, avec... donc, José Jover.
José Jover.
José Jover, qu'on avait déjà reçu ici d'ailleurs il y a quelques mois.
Absolument.
Hein. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnages, hein, de tes albums? Parce que j'ai l'impression que c'est. Certaines choses dans tes albums, ou du moins au moins dans Petit Polio, dans La Famille Slimani, tu as une grande part autobiographique. C'est l'impression que j'ai, même si ce n'est pas totalement autobiographique.
Moi, je pense que l'autobiographie, ça n'existe pas. C'est un genre, mais fondamentalement, ça n'existe pas. La seule réalité, c'est la page blanche. Quand on veut parler du passé, le passé est mort de toute façon. Mm-hmm. Donc, ce qu'on va créer, même si on prend comme matériaux son passé, son vécu, c'est mort. On triche de toute manière. Et puis, il y a aussi quand on est dans un art, notamment la bande dessinée, mais un art narratif, d'ailleurs, que ce soit en bande dessinée, littérature, cinéma, il y a forcément mais le médium lui-même qui entre en compte, dont il faut tenir compte pour raconter ce qui est, paraît-il, autobiographique. C'est un genre, ça n'a pas trop de sens, l'autobiographie, à mes yeux. Mais je n'ai jamais été prisonnier de ça. Je peux raconter des choses qui me sont très, très, très personnelles, mais c'est pas le tout, ce que ça rentre parfaitement dans un cadre. Je peux aussi faire appel à mon imagination. J'ai pas vraiment de limite par rapport à ça. Parfois même, c'est en faisant appel à mon imaginaire que je suis peut-être le plus autobiographique.
Oui. Mmh. Ça m'étonne pas vraiment ce que tu dis là, hein, Sinon, est-ce qu'on peut parler quand même de quelques-uns des personnages? Ton premier personnage?
Mon premier personnage, c'est... j'ai fait des tas de personnages, mais après, le premier qui a été important pour moi, c'était Abdullah.
Ouais.
Abdullah, c'était les années 70. Je crois que dans la bande dessinée, c'est certainement un des premiers, le premier sans-papier, je veux dire, qui était, puisque la première histoire parue c'était en strip, où il parlait beaucoup des préjugés. Au départ, c'était du strip. Abdullah, j'ai appris à dessiner avec Abdullah, parce qu'au départ, je ne dessinais que du strip, c'est-à-dire une histoire en trois images, avec un commentaire, et c'était chaque fois la même tête, et il parlait un peu de ce qui subissait au niveau du racisme. On était sous Giscard à l'époque, il n'y a pas encore eu la gauche au pouvoir, le Mitterrand, et après on a eu une histoire qui est parue dans Charlie Mensuel, les éditions du Square, où j'ai pu rencontrer Cavana, Choron, Reiser, toute la bande à l'époque de ce Charlie Hebdo, du vrai Charlie Hebdo, quoi, de l'époque. Et là, j'ai commencé à travailler pour Charlie Mensuel, avec Lal, où j'ai repris le personnage de Abdullah, qui avait justement une histoire de papier à l'époque. Et puis je suis passé finalement à autre chose, toujours avec le personnage de Abdullah qui m'a accompagné, une première histoire qui était Loud. Il y a d'autres personnages qui sont intervenus, dont Nourdine, qu'on peut considérer comme certainement, en bande dessinée, le premier beurre, quoi. Mm-hmm. Peut-être un des premiers, mais en bande dessinée, on peut même dire tout médium confondu. Que ce soit, il y avait peut-être en littérature, on avait quand même le Émile Ajar, La vie devant soi, où il commençait à y avoir un personnage comme ça qui était... ce très beau roman de La vie devant soi, mais il n'y avait pas grand-chose. C'était peut-être à ce niveau-là. Mais celui qui exprimait vraiment le problème d'identité, C'est vraiment Nourdine en disant, par exemple, quand tu demandes s'il a la religion, il dit que quand il était petit, il était convaincu que le prophète avait été crucifié. Donc oui. Déjà, je montrais un peu le problème d'identité, les confusions qui se créent, dont on parlait beaucoup à l'époque.
Et un de tes personnages dit, mais moi, je suis protestant.
Voilà, par exemple. Et après, c'est vraiment toute une époque. Et après, il y a eu la famille Slimani qui est arrivée avec le Gourbi, le deuxième tome, le Gourbi.
Oui, et donc la famille Slimani arrive. Mmh. Et là aussi, on parlait de musique. Hein,
oui.
Donc le oud, c'est-à-dire la musique.
C'est le luth, oui.
C'est le luth. Hein, d'ailleurs, étymologiquement,
luth,
c'est al-oud.
Bien sûr.
Et donc là le... Et un groupe de musique qui va se monter, qui joue dans les mariages.
Oui.
Et un des personnages, Aziz, il y a un des personnages qui conseille à Aziz de faire du rock.
Oui. Eh ben pour moi, l'oud, c'était aussi important au début. C'est-à-dire que je pense que la première phrase de l'oud, c'est une des seules phrases dont je me souviens dans ma production. Elle dit tout, elle parle déjà de ma carrière, de ce qui va venir. Je dis, ces trois maghrébins en train de jouer un air du folklore marocain, n'ont guère que l'amour de la même musique en commun. D'emblée, je les présente dans la diversité. Je veux dire, ils sont différents. Et je vais les démontrer par la suite qu'ils sont complètement différents. Et ce que je fais par la suite, dans toute ma production, ils sont différents. Quand moi je suis arrivé dans la bande dessinée, les auteurs, souvent pour dessiner un noir, ils versaient la bouteille d'encre de Chine. Pour dessiner un rebeu, un arabe, c'était du gris. Il faisait des trames. Dire, il fallait qu'il... Donc pour eux, alors il y avait à la fois le noir, c'était la bouteille d'encre de Chine, l'arabe, c'était le gris. Vous voyez. Donc moi, j'ai essayé de... À l'époque, les préjugés étaient vraiment encore très forts. Donc moi, j'ai essayé de jouer sur ça. Parce que j'avais, moi-même, j'avais du mal à comprendre cette espèce d'imagerie, parce que je suis blanc, personnellement, comme il n'y a pas beaucoup de Français de souche qui sont aussi blancs que moi. Hein. Donc c'était pour... Hein. Et avec les années, même mes cheveux sont devenus blancs. Donc ça me paraissait vraiment étrange de voir que je voyais la diversité des types maghrébins, tout ça. Et je voyais déjà au niveau graphique, c'était intéressant de voir comment les auteurs... Je ne parle pas de racisme, tout ça, ce n'est pas du tout la question. Je parle plutôt d'une espèce d'héritage culturel, de comment on était perçu finalement.
Qui sont des stéréotypes.
Voilà.
Et qui structurent une perception, une vision.
Et je pense que ce sont des stéréotypes qui aujourd'hui n'ont pas complètement disparu, mais ont été atténués considérablement. Et ça tient au fait qu'on commence à voir des acteurs. Le cinéma est aussi très, très intéressant sur ça, sur les acteurs noirs, les acteurs arabes. Alors les acteurs noirs, évidemment, ils sont noirs. C'est donc comment, ou dans quel rôle va-t-on leur donner? Est-ce qu'on va en faire des... Alors soit c'est une histoire, un ouvrier, un intellectuel, un immigré, un délinquant. Pendant une époque, c'était les délinquants. Moi, par exemple, à mon époque, les Arabes, c'était les délinquants. Même dans le cinéma, le polar de gauche, qui se voulait de gauche, l'Arabe était le délinquant de toute manière. Alors, soit on prenait parti pour le délinquant, mais c'était le délinquant. Moi, quand je suis arrivé avec l'oud, je ne voulais pas que ce soit un polar. Je refusais le genre polar par rapport à ça. Et c'était... D'ailleurs, souvent, il y a des gens même qui pensaient que l'oud était un polar. Pour eux, c'était un polar. Parce que pour eux, la présence narrativement de l'immigré ne pouvait être que dans le polar, donc vis-à-vis des policiers.
Alors, moi, quand j'ai lu l'oud, et je me suis rendu compte que la musique que j'avais choisie, enfin, que j'entendais, qui correspondait à ce morceau, à cette BD, c'était pas vraiment l'oud, mais c'est pas très loin. Je te propose qu'on l'écoute et puis on en parlera après.
D'accord. Thank you.
قصتي نبدا بقصتي نبدا بقصتي بسم الله القهار نهدي هديتي نهدي هديتي نهدي هديتي الولفي مسبوغة الشفار مسبوغة الشفار مسبوغة الشفار مسبوغة الشفار مسبوغة الشفار ربي في يد الاشعار في يد الاشعار يحفظ لي البنيه مو البصار مو البصار هو الستار العالم بكل سرار حفظها من كل ضرار يا الله من كل ضرار حفظها من كل ضرار حفظها من كل ضرار ما هيش خليلتي ما هيش خليلتي ما هيش زوجتي ولا هي خنار زهرة بنيتي ياك هي بنيتي زهرة مزهرة تشبه الأزهار تشبه الأزهار تشبه الأزهار تشبه الأزهار تشبه الأزهار شرقت الأنوار شرقت الأنوار على جمال قدها ظلت الأضيار ظلت الأضيار وضوى القمر صبح الملك الجبار يحفظها من كل ضرار يا الله من كل ضرار يحفظها من كل ضرار يحفظها من كل ضرار يسمع طلبتي يسمع طلبتي يسمع طلبتي جهنم المختار ويمحي سيدي ويمحي سيدي يمحي سيدي بجهنم المختار بجهنم المختار يا الله النبي المختار النبي المختار يا ربنا النبي المختار
Vous êtes toujours à l'écoute de RESF, de singulier au pluriel, sur Fréquence Paris Pluriel, RESF ce sera demain, hein. Donc de singulier au pluriel sur FPP 106.3, et on est avec Farid Boudjelal et Martine Lagardette. Farid qui est donc bédéiste, hein, dessinateur, scénariste, et on va parler... Donc on continue à parler de tes personnages. Donc tu as créé d'abord, tu me disais que tu avais appris à dessiner et commencé à dessiner avec le personnage d'Abdallah, qui est au début un personnage, c'est étonnant, enfin si tu veux, pour quelqu'un qui apprend à dessiner avec ça, parce qu'en même temps il est tellement simple, apparemment, hein, qu'il ouais. montre une certaine maîtrise. L'histoire se complexifie. Abdallah, c'est une histoire de sans-papiers qui est exactement l'histoire des sans-papiers ouais. qu'on connaît aujourd'hui, dont on parle tout le temps, hein. Qui est victime d'accident du travail, qui n'arrive pas à remplir ses papiers de sécurité sociale.
Tout à fait. Je pense qu'en bande dessinée, c'est la première histoire. Il y a eu des... Après, on a commencé à faire interviewer des personnages sans papiers et tout ça, mais je pense qu'Abdallah, en bande dessinée, c'était la première fois qu'on voyait ce type de personnage, bien sûr.
Voilà. Et donc ça, c'était en...
C'était en 78.
En 78, donc, au moment où, finalement, peu de temps après que le personnage... Enfin, que la réalité du sans-papier arrive, puisque
oui,
ça, c'est...
Bien sûr, oui. Ben, avant nous, avant le personnage, il n'y avait pas ce débat. Parce que moi, je suis né en 53, donc j'avais quand même... Il n'y avait pas ce débat sur la première marche pour l'égalité. Ça a été le moment où on a commencé à comprendre, finalement, qu'on était dans ce pays, qu'on était français. Alors, la marche pour l'égalité a été quelque chose d'essentiel. Parce que c'est ce que ça nous a... On a commencé à revendiquer... le fait qu'on soit français. Moi, à l'époque, qui suis pourtant, je veux dire, un modèle d'intégration, moi-même, à l'époque, je n'étais pas français, je sais, tout en étant né en France, tout ça. Donc, je me disais, j'allais rentrer un jour dans un pays que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal. Donc, j'imagine des jeunes qui n'avaient
si
pas...
Si tu veux parler un peu plus près du
oui,
micro.
Donc, je devais rentrer quelque part alors que j'étais, j'étais en France, j'étais français. Et donc, c'était, et ce moment de la marche pour l'égalité a été important, important pour ça, je crois.
Et ce que tu dis là me renvoie à Petit Polio.
Oui.
Et Petit Polio, donc, ça se passe à Toulon, je crois.
Petit Polio, c'est la guerre d'Algérie.
C'est la guerre d'Algérie.
Ah, oui.
C'est la guerre d'Algérie à Toulon.
Oui.
Vu par un petit garçon qui, est, qui a 8-10 ans.
Oui.
Et
qui est handicapé.
Qui est handicapé, qui est... Donc, qui est handicapé, qui est polio.
Qui a la poliomyélite,
oui.
Oui, polio, c'est le diminutif de poliomyélite.
Oui,
ce n'est pas polo.
Oui, c'est...
C'est polio.
C'est petit polio qui a la polio. Et y a...
Parce qu'il vient de paraître une bande dessinée chez Dupuis pour enfants qui s'appelle Petit Poilu. Ça n'a rien à voir.
Non, c'est un petit polio. Et petit polio, bon, tu as des tas de passages qui sont extrêmement émouvants. Et un des passages très émouvants dans Petit Polio... C'est, mais je vais te laisser le raconter parce que tu le raconteras beaucoup mieux que moi. Hein, le jour où il a mangé trop de cad et il a fait une grande découverte.
Je vois. Ah oui, tu parles du personnage de Blake Le Roc.
Alors il y a effectivement Blake Le Roc qui est là,
oui.
Où il a en fait il a assisté à une.
Il a assisté à une ratonnade.
Voilà.
Oui. Oui, enfin, ce qu'on peut appeler une ratonnade. Effectivement, ça a été, tu parlais d'autobiographie, un des moments que moi, qui m'est revenu en faisant Petit Polio, un moment où j'étais à Toulon, gamin, en pleine guerre d'Algérie, et je me souviens de le bus s'arrête, le contrôleur qui descend, qui appelle un flic, le flic qui arrive avec le... Il y avait un Algérien. Et qui n'avait pas pris son ticket, effectivement, le flic a sorti la matraque, a commencé à le bastonner. Et d'un coup, je me suis dit, à l'époque, on avait quand même très peur quand on était gamin, parce qu'on se sentait extrêmement fragile, on se disait, oh là là, c'est. Et je pense que moi, à la limite, ou mes parents, si on les avait bastonnés, il n'y aurait eu aucun problème. Hein. C'était, ça aurait été l'être morte si on nous avait tués. D'une certaine façon. Et donc, on vivait un peu dans ce climat, on le voyait. Et puis, à l'époque, on était, c'est ce que je montre aussi dans Petit Polio, on était extrêmement discrets. Les jeunes filles qui portent la burqa aujourd'hui, ou le hijab, ou bien les musulmans qui s'habillent en tenue traditionnelle, tout ça, ne se rendent pas compte de. Je veux dire, à l'époque, nous, on aurait été extrêmement discrets par rapport à ça, quoi.
C'était quand même une période de guerre.
Ah, c'était une période de guerre.
On
essayait d'éviter de se faire remarquer le moins possible.
Et c'était une période qui était très violente, et des deux côtés de la Méditerranée. Hein, il y a eu le 17 octobre 61, il y a eu... Mais il y a toujours... Donc parmi les personnages dans Petit Polio, il y a Petit Polio, et il y a aussi un médecin alcoolique. Et Petit Polio assiste à cette ratonnade.
Avec son copain Rémi. Oui.
Et sa maman lui avait donné... Donc il y a... Toute une discussion sur les gamins.
Oui.
C'est un arabe qui est arabe, mais non, Petit Polio n'est pas arabe.
Oui.
Mais s'il est, il dit, c'est marrant, il ressemble à son papa.
Bien sûr. Oui, on lui dit, regarde, ses copains lui disent, tiens, en voyant l'Algérien qui va se faire ratonner, il ressemble à ton père. Donc c'est vrai. Et évidemment, c'est l'Europe. Je pense que Petit Polio, c'est le moment où Petit Polio prend conscience qu'il est arabe et qu'il est en danger. Quelque part, donc, et avant ça, c'était un gamin parmi les autres. Il y a cette prise de conscience à travers un acte de viol que j'ai montré graphiquement de façon extrêmement pudique. Parce que mais c'est une prise de conscience. Il y a toujours des prises de conscience. Je me souviens, j'ai un ami auteur de bande dessinée, Roland Montpierre, qui faisait des bandes dessinées, il s'était antillé. Et je lui disais, quand tu étais petit, en parlant de Mandrake le magicien avec son copain Lothar, qui est un roi et qui est noir, je lui dis, tu t'identifies à Mandrake ou à Lothar? Et il me dit, je m'identifie à Mandrake. Je lui dis, mais pourquoi tu aurais dû t'identifier à Lothar, il est noir comme toi. Il me dit, oui, mais moi je me dis, je m'identifie au héros. Donc c'est un peu, et quand on est enfant, on ne veut pas, on veut être dans le groupe, appartenir au groupe. Donc, et c'est le moment où Petit Polio, il va sortir du groupe finalement. Il se rend compte quelque part, par cette ratonnade, il est exclu. Mais du groupe, il n'est pas pareil. Déjà qu'il est handicapé, voyez, c'est ce qu'un enfant ne supporte pas. C'est à l'adolescence d'ailleurs qu'on commence à vouloir se faire des looks, tout ça, à sortir un peu du groupe ou à se créer un peu sa tribu. Mais les enfants veulent être dans le groupe. Et Petit Polio, c'est un peu ce qu'il vit.
Ouais. Et donc Petit Polio, au moment, parce que enfin, ce qui se passe autour de cette ratonnade, donc il y a le médecin à côté qui est alcoolique. Ouais. Petit Polio a mangé trop de cades. Ouais. Et il y a une réplique où la maman Salima dit au médecin, c'est grave, docteur. Et le médecin répond, enfin, Petit Polio a fait une grande découverte aujourd'hui.
Oui, il vient de découvrir qu'il était algérien.
Voilà.
Bien sûr. Donc voilà, c'était le.
Et ça, c'est un des moments qui est très fort. Et on voit aussi dans Petit
Polio. Et ça t'a fait pleurer, ça.
Ça m'a fait énormément réfléchir sur la façon dont il a découvert qu'il est algérien. Surtout qu'il y a un moment où il découvre qu'il est français.
T'as vraiment un cœur d'artichaut pour pleurer pour des trucs pareils. T'as pas honte, à ton âge.
Non, pas trop. <c'est... rire> Et dans Petit Polio, donc là, on voit très bien aussi toujours dans Petit Polio. La montée d'un certain racisme à un moment, notamment avec le copain du papa.
Oui, avec César.
Avec César.
Mais pour moi, ce qui est important, c'est quand même que Petit Polio, ça doit rester une passerelle.
Ouais.
Ce n'est pas de mettre les personnages en accusation, parce que je crois que pendant notamment la guerre d'Algérie, que ce soit de tous les côtés, chacun a été un peu victime. Il y a des appelés français qui se sont retrouvés là-bas, qui ne savaient pas très bien ce qu'ils foutaient, ça a bousillé leur vie. Et César, je le mets un peu comme ça. Il a eu un copain qui est mort dans ses bras en Algérie, et puis d'un coup, il arrive en France. Alors, il était copain avec le père Slimani, et d'un coup, il ne peut plus le voir de la même façon, quoi. Donc c'est lui-même qui va communautariser forcément et puis jusqu'à la réconciliation. Fondamentalement, mes albums sont des c'est le thème moteur, c'est quand même la réconciliation.
Et Petit Polio, il a une grand-mère.
Il a une grand-mère qui est arménienne, oui.
Et donc
le côté autobiographique, c'est que j'ai moi-même une grand-mère, enfin j'avais puisqu'elle est décédée, mais qui était arménienne.
Et donc cette grand-mère, elle a toute une histoire aussi, parce que c'est toute l'histoire et toute l'histoire de la Méditerranée, de la France méditerranéenne, de la qui fait que Petit Polio a une grand-mère arménienne.
Voilà. Et comme je suis un arabe musulman d'une grande délicatesse, que je ne suis pas un goujat, je laisse parler, je donne la parole à Martine Lagardette pour dire que tous les Arabes ne sont pas sexistes.
Alors, si tu peux parler un petit peu plus près du micro.
Bien, cette grand-mère arménienne. D'abord, je remercie Farid de m'avoir confié ce dossier qui raconte l'histoire de sa grand-mère. Enfin, autant qu'on puisse raconter cette histoire, puisque c'est une femme dont la vie a été ponctuée déjà par trois guerres et un génocide. Quand Farid m'a confié ce dossier, j'étais extrêmement démunie, puisque nous n'avions que quelques photos, dont une photo qui représentait une photo de famille, probablement datée de la fin des années 20, début des années 30. Une photo où l'on voit une femme en costume de femme kabyle avec un jeune homme. C'est une photo qui était prise à Alger, probablement. Et puis une dernière photo qui était une photo d'identité d'une femme âgée. Donc, j'ai écarté la photo d'identité. J'ai trouvé qu'avec le parcours qu'elle avait, le côté un peu policier de la photo d'identité me gênait pour avancer dans ce travail. J'ai pu découvrir une femme formidable, exceptionnelle et silencieuse. Elle est née à Constantinople. Elle a été séparée de sa famille probablement tout de suite après le génocide, enfin dans le courant 1915-1916, mais alors c'est très difficile parce que la particularité de l'histoire, de cette histoire arménienne, c'est que aucune trace administrative n'existe de la suppression des personnes. Je veux dire, on a On n'a pas de traces. Je veux dire, contrairement à ce qui a pu se passer, par exemple, pour l'extermination des Juifs, où il y avait des traces administratives très, très importantes, parce que là, on a surtout emmené des gens d'une manière sur des parcours où ils ont disparu, où ils sont morts de faim, de toutes sortes de... Et puis tout ça, ça s'est fondu dans l'histoire un petit peu. Donc c'est très difficile de retracer les parcours. Et puis cette femme, on l'a retrouvée séparée de sa famille, mais à Césarée en Anatolie. Et là, elle a rencontré le grand-père de Farid, qui probablement avait accompagné l'armée d'Orient à l'époque. L'oncle de Farid était dans l'armée, donc avait été dans l'armée d'Orient. Et elle a rencontré le grand-père de Farid donc à ce moment-là. Ils ont vécu un tout petit peu là-bas et ensuite ils ont essayé de repartir donc vers l'Égypte, vers Alexandrie. Elle a eu entre-temps une petite fille qui est morte. Et ensuite, ils se sont installés en Algérie, donc en Kabylie, à Constantine. Et là, à Constantine, dans les années 30, eh bien, il y avait des émeutes. Et on peut imaginer que ces émeutes à Constantine, dans les années 30, lui ont probablement fait très, très peur. On ravivait certainement des choses difficiles. Entre autres, peut-être qu'il y avait aussi... C'est très difficile de retracer cette histoire. Et puis, elle est venue à Alger et ensuite en France avec son fils, le père de Farid. Donc là, ils se sont installés à Toulon. Il faut savoir que le père de Farid avait donc fait, si je ne me trompe, le débarquement de Provence. Ouais. Et c'est après, ils se sont installés donc définitivement à Toulon. Et cette femme était assez extraordinaire dans son silence parce qu'elle était chrétienne. Elle a été convertie, comme ça a été le cas pour beaucoup d'Arméniens, où c'était la vie, je veux dire, c'était ou la conversion ou la mort. Elle a donc été convertie à l'islam à ce moment-là. Elle a vécu en Algérie. On n'a jamais su beaucoup de choses sur la suite après cette conversion. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ensuite, à Toulon, elle fréquentait une petite salle de prière arménienne à Toulon. Donc, ce que je raconte dans cette histoire. On n'en sait pas beaucoup plus aussi. Ça a été très difficile de remonter à travers cette histoire. Donc, et elle est morte à Toulon après cette vie... qui pourrait être romanesque si elle n'avait pas été aussi dure, mais à travers ça, une femme avec une personnalité extraordinaire. Donc vraiment, moi je remercie Farid de me l'avoir fait découvrir.
C'était pas quelque chose que j'avais anticipé, mais c'est finalement une histoire qui est quelque part assez proche de l'histoire d'Asmahan, la chanteuse qu'on écoutait tout à l'heure, qui n'est pas arménienne, mais qui est druze, qui pour des histoires a quitté le Liban, est partie elle aussi à Alexandrie, puis au Caire. Et, Alors, moi j'ai choisi un petit morceau de musique, j'espère que...
Oui.
En hommage à ta grand-mère.
D'accord. Mm-hmm.
êtes toujours à l'écoute des singuliers au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et rfpp.net. Et nous sommes donc avec Farid Boudjelal, auteur de bande dessinée, dont Petit Polio, Le Roux, La Famille Slimani, Le Chien à trois pattes et un certain nombre. Et Martine Lagardate, qui a notamment travaillé sur la reconstruire, retrouver le personnage de Mémé d'Arménie. Et avec Mémé, il y a une relation. Quand Mémé arrive à Paris, hein, dans, là je parle de la bande dessinée, une relation tout à fait étonnante, puisqu'on se met à fêter Noël à la maison,
oui.
Ce qu'on ne fêtait pas, et en même temps, Petit Polio va entrer, découvrir un peu la communauté arménienne, avec le médecin, avec...
Oui.
Et Petit Polio, donc on va... Il y aurait tellement, il faudrait consacrer plusieurs émissions parce que on n'arrivera pas à parler de tout.
Ben oui.
Donc Petit Polio, on va le retrouver un petit peu plus grand dans la famille. Donc d'une part dans les années Ventoline, hein, parce que Petit oui. Polio, il n'est pas seulement polio, il est aussi asthmatique.
Ah ben il cumule. Hein.
Oui. Et donc on va le retrouver, on va le retrouver.
Et puis il est circoncis aussi. Hein.
Oui. Ah ça, il y a toute une histoire peut-être de circoncision entre le,
ah ben, en
entre le grand-père et le médecin. Oui. Peut-être tu peux nous en parler un peu.
Tu vois, donc c'est vraiment... puis on verra par la suite qu'il a plein d'autres tares.
Mm-hmm.
D'une manière, quand tu as une maladie comme la poliomyélite, en général, ça bousille bien tout le reste du corps. Hein. C'est les dominos. Hein. T'en bouscule un, ils s'écroulent tous. Hein.
Ouais.
Tu vois dans quel état je suis.
Bon, vu comme ça, ça.
Les auditeurs ont de la chance que je ne passe pas à la télé. Oh, de m'entendre.
Devrait,
mais, hein.
Ça devrait le faire, on voit, ça ne se remarque pas trop. Hein.
Ah ouais, mais je me fais faire un lifting tous les ans. Hein.
Donc, petit polio, on le retrouve un petit peu plus grand, à la fois donc, dans le Oud, dans le Gourbi.
En fait, on l'a d'abord vu plus grand,
dans le
Gourbi. On se demandait même si est-ce que c'est le même personnage. Il est tellement différent. En même temps, il est plutôt rocker, style plutôt rockabilly même, avec une banane, mais toujours sa patte folle avec sa chaussure. Hein, sa chaussure, c'est un appareil orthopédique. C'est même plus
ouais.
qu'une chaussure, c'est un appareil orthopédique. Est-ce que c'est tout à fait le même, le petit polio, de Petit Polio, justement, la série, est certainement plus proche de ce que j'étais, parce que ça a été... J'ai fait cet album à un moment, donné, quand j'étais... disons que mes deux territoires, il y avait Toulon et l'Algérie. Mes deux territoires étaient occupés. Il y avait d'un côté, l'Algérie avait connaissé ses premiers attentats avec la branche armée du fils, le GIA, premier attentat des fanatiques musulmans. Et Toulon était tombé aux mains du Front National. Moi, en tant qu'auteur, je devais me situer par rapport à cette histoire. Et je me suis dit, finalement, les séquelles de ces deux événements, que ce soit Toulon ou l'Algérie, c'est la guerre d'Algérie. Et je me suis souvenu que j'avais été un petit Algérien handicapé à Toulon. Et j'ai parlé un peu de ma mémoire de la guerre d'Algérie quand j'étais enfant, vraiment. Ça a été une mémoire. Mais plus pour parler du temps présent, de ce que je vivais, que du passé, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était surtout le présent. Comment expliquer le présent? Comment en était-on arrivé là?
Alors, en te regardant et en t'écoutant, tout à l'heure, j'ai commencé en parlant d'autobiographie.
Oui.
En fait, ce n'est pas une autobiographie, c'est plus de l'autoportrait, j'ai l'impression.
Oui, si tu veux, oui. Oh, oui, ça peut être des tas de choses, tu sais, on peut pas... Hein, c'est, disons que je bricole, quoi.
Et donc, quand on retrouve... Donc, finalement, le petit polio à 17 ans a précédé petit polio à 7-8 ans.
Mmh.
Hein, mais on retrouve donc petit polio à 17 ans. Donc, en tout cas, c'est le même ou c'est pas le même. Disons qu'il a les mêmes parents,
oui,
il a un certain nombre d'attributs,
voilà,
un certain nombre d'attributs en commun. Mmh. Il est vraisemblablement pas asthmatique.
Non, à l'époque, non. Enfin, quand j'ai fait, mais il est devenu, pour les besoins, parce que je voulais faire parler des jours plissés, cette clinique pour les maladies respiratoires dans les Alpes-Maritimes. Là, je travaille sur un autre tome où Petit Polio est encore présent, mais il a un rôle très secondaire. Et le tome sur lequel je travaille s'appelle Le Cousin Arki. Bon, Le Cousin Arki, il y a aussi de moi dans ce personnage. Tu vois. C'est, hein, et hein, il est évident que je crois que quand tu es auteur, narrateur, tous les personnages, c'est toi. Comme c'est, dire Madame Bovary, c'est moi. Bon, pour employer vraiment quelque chose de. Hein. Donc forcément, c'est toujours.
Ce que je veux dire, ce qui est étonnant autour de l'histoire des Slimani, c'est que la construction de l'histoire des Slimani n'est absolument pas linéaire. Je veux dire, c'est une espèce de construction un peu en étoile, comme ça, je veux dire, avec des... Il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de... On a l'impression que ce sont des moments, comme ça, qui ont été... que ça surgit à partir... À certains moments de la vie, une partie de l'histoire s'est construite. Mais c'est jamais linéaire.
C'est jamais linéaire. Et moi, je dois dire que je ne l'ai jamais lu, sauf les trois volumes de Petit Polio. Mais je n'ai jamais lu la famille Slimani, le Oud, de façon linéaire. C'est des choses que je prends, j'ouvre une page et je me plonge dedans. Et il y a tellement d'histoires dans les histoires,
oui,
que de toute façon, je peux relire 5 fois la même histoire ou relire 5 fois les mêmes pages.
Ouais.
Je me concentre sur une histoire et ça, je me demande comment on peut être capable de faire ça, de faire... C'est comme dans la vie, chaque personnage a son histoire.
C'est un problème parce que toi tu aimes bien, mais il y a des lecteurs qui ont du mal à s'y retrouver. Il y a des lecteurs, ils aiment bien ce qui est linéaire, où tu suis le personnage, tu vois. Et moi je ne suis pas vraiment comme ça, j'utilise l'ellipse. C'est vraiment de la bande dessinée écrite, c'est très très écrit. C'est vraiment découpé, c'est extrêmement précis. Et c'est beaucoup beaucoup de travail, j'attache beaucoup d'importance à l'écriture parce que je ne veux pas avoir un personnage ou un héros le montrer en train de boire sa tasse de café. Par contre, je suggère tout. Et le lecteur a beaucoup de travail à faire entre les cases.
Oui, en tout cas, moi, je sais que quand je le lis, je passe de l'un de... Je relis les mêmes pages, mais je me concentre sur telle ou telle histoire. Il y a plein d'histoires à la fois et c'est vraiment complètement vivant. Alors, je vois que l'heure avance très vite. Donc, Mahmoud... C'est un rocker, il aime beaucoup le rock. Et on a un peu de rock hein, pour Mahmoud quand même.
Ah.
Well, I got a little woman called Crazy Legs. She's the queen of the teenage crowd. I haul a cat, stuff the nickels in the old jukebox just to watch her do the bop when the music gets loud. Crazy legs, bopping all over the floor. Do the bop, crazy legs, do the bop. She's my baby and I don't mean meta. She's mine, all mine. Well, I'm crazy about crazy legs and crazy legs are crazy about me. Well, I'm crazy about crazy legs and crazy legs is crazy about me. Well, she's my baby and I don't mean maybe. She's mine, all mine. Jump! Well, now when she hears the music, well, it gets in the feet. Well, now then she starts a-rockin' with a crazy beat. She does a different kind of rhythm with every song. Well, that's why I call her Crazy Legs, cause she's real gone. Crazy legs, a-boppin' all over the floor.
On est toujours à l'écoute des singuliers au pluriel, sur Fréquence Paris Pluriel, et c'était Crazy Legs, hein, Pat Foll, Jeanne Vincent, en hommage à Mahmoud, parce que je suis sûr que Mahmoud dansait beaucoup...
Pas de folle à le sens du rythme.
Bah oui. Non, mais il n'y a pas. Bon, Petit Polio, c'est un personnage. Mais tu as fait beaucoup d'autres bandes dessinées aussi. On s'est concentré sur Petit Polio.
J'ai fait Juif arabe, dans l'humour, le bourgeois. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On peut dire que j'ai été. Non, j'ai fait beaucoup. Il y a aussi Jean Bomber avec la petite Badia Charlotte. Qui se dédouble. J'ai fait énormément de personnages, il faut dire que je... Donc j'ai une trentaine d'albums, c'est énormément de personnages. J'ai essayé de parler pendant toute ma carrière un peu de cette sensibilité dont on parle beaucoup aujourd'hui dans cette espèce de discours sur l'identité nationale. Je montre justement une autre identité nationale, nationale ou internationale, ou dire, de ce qui se passe, de ce qui se passe chez soi. Quoi. Ouais. Je disais justement que la première marche pour l'égalité a été révélatrice. Et ce qui en reste aujourd'hui, finalement, c'est qu'aujourd'hui, ils sont français. Maintenant, on peut voir, par exemple, des gens qui sont immigrés, qui vont parler de leur enfant en disant, lui, il est français.
Et
quand moi j'étais gamin, ce n'était pas possible. Mes parents, on était algériens, on n'était pas français.
C'est effectivement quelque chose.
On n'était pas perçu.
C'est effectivement quelque chose qui a changé. Mmh. Hein, c'est que on parle moins d'immigrés deuxième génération.
Voilà.
Ce qui est un non-sens total.
Absolument.
Je retombais sur des bouquins de pédagogie. Comment enseigner aux jeunes immigrés,
oui.
Sous-entendu aux Français qui sont nés en France, mais qui n'étaient pas français de souche, c'est-à-dire pas polonais.
Bien sûr. Bien sûr.
Eh bien, je crois qu'on va être obligé bientôt, malheureusement, de se quitter. Donc, sans avoir conclu. Donc, j'espère qu'on refera très bientôt une prochaine émission.
Avec
et peut-être
plaisir.
En parlant toujours à partir de ta bande dessinée et de la façon dont tu abordes les questions d'identité nationale de façon tout à fait indépendante du débat qui est là.
Absolument. Hein,
donc, merci beaucoup, Farid.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup, Martine. Et moi, donc, je vous dis, merci beaucoup Christophe à la technique, et je vous dis donc à demain pour l'émission RUSF, hein, à la même heure, à 18h, et là, donc, on va retrouver les oreilles loin de... au fond près du radiateur, c'était un petit lapsus, hein, au fond près du radiateur et Zéro Hebdo qui vont nous parler, donc, beaucoup, hein, une émission spéciale sur l'incendie de Vincennes, mais quand même, pour conclure, notre émission de la singulier au pluriel, je voudrais qu'on écoute un tango judéo-arabe.
المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف.